tant à la cohérence logique et de l'intelligence à proprement parler, l'intellectualité. Mais le critère n'est pas dans l'intelligence. Le critère de vérité n'est pas dans le rationnel, dans le sens strictement logique du terme. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que, selon la conception biblique de l'homme, eh bien, la personne humaine dispose de fonctions, par exemple la sensibilité, par exemple la volonté, par exemple l'imagination. En effet, dispose de différentes fonctions. Une de ces fonctions principales, importantes, c'est l'intelligence. Il peut y avoir des vérités que, reconnues, comprises par l'intelligence, de ce qu'il faut tirer des conséquences pratiques de cette vérité. Mais le contenu de sagesse de cette vérité vient d'une intuition beaucoup plus profonde, et où le critère n'est pas la raison, mais la volonté. C'est-à-dire, là nous sommes devant un mystère de l'âme. Maïmonide, qui est connu dans le langage universitaire comme un théologien rationnel. Maïmonide qui assigne cette aide à l'intelligence la plus haute importance parmi les fonctions du fait, a cependant une remarque qui est dans un paragraphe du chapitre 2 de son apatine qui nous montre en quoi il est essentiellement un rabbin parisien. Dans ce sens-là. Et c'est là que je vais répondre, essayer de répondre à la question de M. Rossi. Il dit, dans le deuxième chapitre de son apatine, il se pose la question suivante. Ma personne, avec toutes ses fonctions, est responsable devant la loi morale, devant la vérité du bien et du mal. Mais pas toutes les fonctions ne sont libres. Par exemple, l'imagination n'est pas soumise au contrôle de ma volonté, exemple rêve. Et si j'ai rêvé des choses mauvaises, suis-je responsable, suis-je peccable, punissable d'avoir rêvé des choses mauvaises? Il dit non. Lorsque ça fonctionne, ça fonctionne. Si j'adhère à ce qui s'est passé, ma responsabilité est engagée dans mon adhésion. Mais si ça m'a traversé, je ne suis pas responsable. Pour donner un exemple dans l'imagination. Alors, il dit, c'est essentiellement la conduite de volonté qui est responsable et juridiquement responsable devant la loi. Comment dit-on cela? Ça m'échappe. Vous avez compris l'idée. C'est-à-dire justiciable de la loi. Et il dit, « Ah, Rachel Kassifri, mais quant à l'intelligence, Yeshbo Mebucha, il y a un doute à ce sujet. Aval, ami Omer, c'est Maïmonide qui parle, mais il dit, je dis, chez Yesh basé à Koar, que dans cette fonction de l'intelligence, du fonctionnement de la connaissance par l'intelligence, Yesh Gamken Mitzvah Avera, il y a aussi vertu ou défaut, commandement ou transgression. Les filles et Munat d'Arat Betela, suivant que je crois en une fausse connaissance, ou Emunat d'Arat Amitit, ou suivant que je crois en une vraie connaissance. Qu'est-ce que veut dire Maïmonide? Maïmonide dit, le fonctionnement de l'intelligence obéit à des lois positives. On ne peut pas dire qu'un homme pense juste dans le sens moral, on ne peut que dire qu'un homme pense juste ou faux dans le sens logique. Par conséquent, en principe, je ne suis pas responsable du fonctionnement de ma pensée lorsque je cherche la connaissance. Mais, lorsqu'il s'agit des croyances où j'adhère par ma volonté à tel ou tel contenu de jugement, là je suis responsable. Et là c'est une note où Maïmonide nous montre que la volonté libre, c'est tel le critère de la foi et non pas l'intelligence. Et non pas la connaissance au niveau du fonctionnement de l'intelligence. Voilà quel est le critère. Vous toucherez à ça surtout demain avec M. Ancel, mais lorsque il y a différentes opinions, la différence des opinions ne vient pas d'un fonctionnement différent des intelligences. Elle vient de la racine de l'âme, de la volonté libre, qui adhère autrement à autant de vérités possibles pour la logique. Du point de vue du raisonnement, toutes les opinions vont être démontrables. On peut effectivement démontrer, que le texte de la révélation prophétique antérieure dit ou ceci, ou ceci, ou ceci. Mais comment faut-il choisir? Ça, c'est l'âme qui choisit, c'est pas le cerveau. Et l'âme choisit par un acte de volonté libre d'adhérer ou de ne pas adhérer. Et pour donner un exemple concret, sujet en discussion dans l'académie, Rabbi Ishmael va dire, on fait comme ça. Rabbi Ishmael, Rabbi Yoshua dira on fait autrement. Rabbi Akiva dira encore on fait autrement. On pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça. Toutes ces vérités sont vraies du point de vue de la vérité de la Bible. Elou ve elou dibre Elohim Chaim. Ceci et ceci sont les paroles du Dieu vivant. Et le Maharal a indiqué que Elohim Chaim, en hébreu, pour dire vivant, il faut dire vivant au pluriel. La vie est plurale, si j'ose. Mais
Et voilà que la Gemara dit, et cependant, halakha le maaseh, la règle, c'est qu'on fera comme celui-là. C'est un problème très important, mais vous étudierez plus en détail demain. Alors moi, je voudrais vous donner une indication. C'est-à-dire, chaque homme, chaque juif, a son âme géniale pour elle-même. Et par conséquent, à l'échelle individuelle, il y a un livre de la Bible pour chacun. Il y a une tradition kabbaliste qui dit qu'il y a autant de lettres dans la Torah qu'il y a d'âmes en Israël. Et chaque âme a sa lettre dans la Torah. Shishim, ribo, neshamot, yesh, shishim, otiot, la Torah. Yesh, shishim, otiot, la Torah, ça fait Israël. Shishim, ribo, neshamot, yesh, shishim, ribo, neshamot, ça fait Yeshurot. Alors il y a 600 000 âmes en Israël, de base, il y a 600 000 lettres dans la Torah, de base. Ne cherchez pas à faire des comptes, vous perdrez votre temps, ça veut dire autre chose. Mais le fait est qu'il nous faut donner la règle pour la collectivité. Et alors là, il y a un jugement de celui qui est le responsable de la communauté à chaque temps. Et alors il dit, tout ce que vous avez dit est vrai, mais pour les juifs, il faut faire comme ça. Pourquoi ? Parce que si tous les juifs étaient comme toi, Rabbi Akiva, on serait comme toi, Rabbi Akiva. Si tous les juifs étaient comme toi, Rabbi Ishmael, on serait comme toi, Rabbi Ishmael. Mais on va faire comme Rabbi Yoshua, parce que moi, le chef de la communauté, responsable de mes juifs, je sais que mes juifs sont plutôt comme Rabbi Yoshua. Je vous ai dit ça un peu sous forme de roman, si vous voulez. Mais pour comprendre un peu, qu'est-ce que ça veut dire, Halakha Keman, la Halakha sera comme qui ? Alors quelqu'un se lève dans l'académie et dit la Halakha est comme lui. Plutôt que comme lui, plutôt comme lui. Pour comprendre, tout ce que vous avez dit est vrai. Pour faire, c'est comme ça qu'on va faire. Vous voyez, dans quel sens est cette collégialité ? Ce n'est pas une démocratie des opinions. C'est un jugement de par où passe la majorité de ceux qui savent. Ce n'est pas une démocratie, c'est une aristocratie de la connaissance. Mais elle n'est pas la connaissance par l'intelligence. Elle est la connaissance par l'âme. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair.
Il y a une question, monsieur ?
Je ne vous entends pas, je vous en prie, parlez plus fort. Mais oui, mais parlez plus fort, hein, ça va. Venez parler d'ici. Vous avez droit au micro. Hein. Hein? C'est lui qui est énervé. Tu le connais déjà? Mais tu l'as prêté. Tu l'as prêté. Tu l'as prêté. Très bien.
Alors, vous avez dit disparition des textes, vous avez cité les Athéniens, les Sextiens, mais dans le cadre de votre discours, vous avez dit que c'est leur tendance persistait. Alors, si leur tendance persistait, les textes persistent d'elles-mêmes aussi, seulement les personnes changent. Par exemple, pour les Athéniens, je pense que vous avez voulu parler.
C'est pas le micro, parlez dans le micro.
Du genre des kabbalistes et. Ce sont des gens qui
écoutez, on vous entend pas, parlez dans le micro.
Bon, Je voulais savoir si leur tendance reste. Si leur tendance reste, il n'y a que les personnes qui changent, mais seulement les sectes en elles-mêmes restent telles qu'elles sont. Bon, ça c'est l'employeur, ça vous allez dire.
Non, c'est une question de vocabulaire, c'est pas grave. Ça fait quota, avancez.
Vous avez dit disparition de la prophétie. Et on dit dans la Bracha, en montant dans le Sefer Torah, Nathan Torah. Donc c'est quelque chose qui est actuel, c'est quelque chose qui est toujours vrai. Donc la prophétie, elle continue avec de grands sages qui la perpétuent actuellement, non ?
Je vais répondre.
Et puis, je voulais savoir si l'équation personnelle dont vous parliez était rattachée au fait que à Matan Torah, c'est-à-dire quand le Tachin nous a donné la Torah, on a dit on fait d'abord et on comprendra ensuite. Ça c'est une question. Et puis pour les rêves dont vous avez parlé, vous avez dit que pendant les rêves, si on faisait une avéra, on était fautif ou pas. Je crois que j'ai compris qu'on n'était pas fautif, alors que je pense que j'ai lu autre chose.
Écoutez, je ne sais pas où vous avez lu autre chose, mais je vais essayer de vous répondre d'abord par la quatrième question qui était la dernière. J'ai cité Maïmonide dans l'exemple de l'imagination dans les rêves, et où il n'y a pas de responsabilité vis-à-vis de la loi du bien et du mal, parce qu'il n'y a pas de liberté, donc pas de responsabilité. Et monsieur donc m'a posé la question suivante. Il pense avoir appris qu'on était quand même responsable si on a fait une mauvaise action dans le rêve. La question que vous posez pose un problème énorme de psychologie, de psychiatrie, il y a sûrement des psychanalystes parmi vous, et vous savez très bien qu'il arrive qu'on rejoue ses propres désirs dans le rêve. Voilà ce que je voudrais dire uniquement. Si j'adhère dans ma volonté, si je fais avec ce qui se fait en moi, alors je suis responsable. Mais si je laisse cela me traverser, alors c'est une toute autre nature de responsabilité telle qu'on ne peut plus dire responsabilité. C'est Béchogègue, c'est Béonès, c'est, comment dire ça en français, c'est de la culpabilité innocente, en cela que je n'assume pas la responsabilité de cela. Ça peut venir de mon hérédité, que sais-je, de mon inconscient, comme disent d'autres, ça vient de ce que les tendances du monde me traversent comme ça. Si j'adhère à ça, je deviens responsable. Si je crie avec, si vous voulez. Si je n'adhère pas, je ne suis pas responsable. Alors, il est possible que vous ayez lu dans un moraliste un affinement de scrupules jusque-là. Tu veux te connaître, essaye de comprendre tes rêves. Tu sauras qui tu es et tu verras la boue qu'il y a dedans. Mais il faut quand même se dégager de ce pessimisme. Je ne veux pas être ce qu'il y a là-dedans moi. Et alors, à ce moment-là, je ne suis pas responsable. C'est-à-dire, j'assume une volonté contraire à mes instincts mauvais. Et mais c'est mes instincts, parce que je suis homme, mais c'est pas moi qui ai fabriqué le monde. C'est clair, vous voyez dans quel sens ça va. Je vous citais une phrase du Talmud qu'on peut relier à ce problème. Le Talmud dit « Celui qui reste 7 jours sans rêver, c'est un rachat. » Rachat, ça veut dire très méchant. Okay? Alors que dans une atmosphère très différente culturelle, on pourrait dire le sommeil du juste. Celui qui reste 7 jours et ne reste pas, c'est injuste, il dort du sommeil du juste. Je dis toujours comme précaution qu'il ne faut jamais prendre pour soi des enseignements généraux. C'est une typologie. Mais n'essayez pas de vous diagnostiquer à travers ce que je dis là. Okay? Ni vous, ni le voisin. Mais ni diagnostiquer le voisin. Voilà ce que ça signifie dans le commentaire talmudique. Étant donné l'état du monde, celui qui peut rester une semaine entière avec un sommeil de juste, entre guillemets, sans avoir un seul scrupule, un seul remords, un seul cauchemar, c'est sûrement un rachat. Est-ce qu'on peut rester, le monde étant ce qu'il est, 7 jours sans rêver? Sans rêver, ça veut dire sans avoir de cauchemar. Vous comprenez ce que je veux dire, okay? Alors, si on vous raconte que quelqu'un reste 7 jours sans rêver, n'allez pas lui dire qu'il est rachat. C'est une typologie. Là, je crois qu'il y a un affinement de scrupules, mais qu'il faut vérifier avec votre propre maître quel texte, quelle indication en tout. Maintenant, vous avez dit, j'ai dit que la prophétie s'est arrêtée au temps où elle s'est arrêtée. Bon, d'abord, c'est pas moi qui ai dit. Ben, c'est une donnée historique de la tradition juive. Et vous avez dit que ça vous semble difficile à admettre, puisque nous disons, chaque fois que nous lisons la Torah, que Dieu nous a donné la Torah. Oui, il nous a donné la Torah que nos ancêtres, en tant que prophètes, ont reçue. Ça nous a été transmis par tradition. Ça ne veut pas dire que nous sommes prophètes à leur manière. Et vous voyez, là, il y a un problème de vocabulaire. Je crois que c'était pas inutile de vous dire qu'il faut prendre les mots au sérieux. Lorsque j'ai parlé de Musset tout à l'heure, et je vous dirai que ce que Dieu m'a dit, de ce point de vue-là, nous sommes tous prophètes, il suffit de faire un poème. Un poème où il y a une quelconque inspiration.
Ah, mais aussi,
il y a des poèmes au sein. Oui, par exemple, c'est un très bon exemple. Okay? Mais, et ça, il faut demander aux musulmans. Mais la... Mais non. Et d'ailleurs, on peut aussi leur répondre. Et d'ailleurs, ils le savent, puisqu'ils le croient.
Mais ça va, ils disent. Il y a une différence entre les femmes de l'homme, non ?
S'il vous plaît, on continue la conférence. Allez.
Écoutez, madame, rassurez-vous. Écoutez, madame. Écoutez. S'il vous plaît. Écoutez, madame, rassurez-vous, je suis persuadé que tout le monde. Je suis persuadé que tout le monde dans cette salle a compris de quoi il s'agissait. Rassurez-vous, accorder un minimum d'intelligence aux participants de cette salle. Et je pense que j'ai répondu à toutes vos questions, sauf la première. La première, c'est ceci. J'ai dit effectivement que les sectes, comme institutions historiques, ont disparu. Et chaque fois qu'elles ressurgissent, elles ont leur temps d'histoire et elles disparaissent. Mais elles changent de nom, d'ailleurs. Et ne cherchons pas à interpréter. Vous avez dit une chose inexacte, que par exemple, les Esséniens d'aujourd'hui seraient les kabbalistes. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi je n'ai pas cité du tout d'identification. Les tendances, très, mais la forme que dans l'histoire chacune de ces sectes a pris, par exemple, les Esséniens de l'histoire, ont disparu. Et je crois que c'est une loi de ces phénomènes, que, inévitablement, même si ça dure un long temps, par rapport à l'éternité du temps traditionnel, eh bien, les sectes se renouvellent, disons, se succèdent et disparaissent. La tradition, elle, reste permanente. Parce que c'est un phénomène historique d'un peuple, et non pas d'une communauté sacerdotale, d'une communauté confessionnelle. Ce n'est pas un phénomène institutionnel. C'est un peuple qui, comme tel, est resté fidèle à la nation antérieure qui était la nation hébraïque. Oui. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas ce que ça veut dire un sadducéen qui adhère à la foi. Nous avons... Je veux dire, non, oui, bien sûr. Je veux dire qu'il y a des hommes qui sont pratiquants, mais qui ne croient pas. Il faut que vous fassiez cette découverte. C'est une découverte de la réalité. C'est pas moi qui parle, encore une fois. C'est, par exemple, le 11e chapitre de la Gemara de Sanhedrin. Et, par exemple, vous avez la phrase suivante. C'est... quelqu'un qui pratique toute la Torah, mais qui n'adhère pas dans les croyances, dans la foi fondamentale de cette Torah qu'il pratique, n'a pas part au monde à venir. Attendez, je vous donnerai d'autres références, en particulier à la fin de la Gemara de Sota, où on parle de justes d'après la loi qui n'ont pas la foi. Et je ne crois pas que ce soit le sujet ce soir de faire des analyses, d'illustrations. C'est une catégorie que j'essaye de formuler. Et vous pouvez peut-être illustrer ça sous forme anecdotique, mais je crois que ce soit pas nécessaire. Je crois que l'idée, la notion en question est suffisamment claire pour elle-même. Ça peut vous paraître étonnant. Ça nous a paru à tous étonnant avant qu'on ait rencontré ce phénomène dans la réalité de l'existence. Des hommes, donc, et des femmes aussi, qui pratiquent parfois très scrupuleusement, mais qui n'ont aucunement, en aucun degré, la foi biblique, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas dans la résurrection des morts, qui ne croient pas que la Torah ait été révélée. C'est la plus grande des sagesses, il faut la pratiquer, mais révéler, allez dire ça aux enfants. Qui ne croient pas dans le monde à venir, qui ne croient pas dans les données élémentaires de la foi vivante, et qui cependant pratiquent ce culte. Est-ce que Dieu le considère dans la vie ? Pardon ? Et il le considère comme un juste du point de vue de la pratique. Hein ? Mais je vais vous dire, en hébreu, la notion de foi, ça signifie d'abord confiance. Hein ? Et je le dirais peut-être dans la formule suivante. Hein. Quelqu'un qui n'a pas confiance dans l'espérance du monde, dont parle la Bible, est-ce qu'on peut avoir confiance en lui, même s'il pratique scrupuleusement hein. Voilà sous quelle forme le Talmud en parle. Si quelqu'un n'a pas peur pour son âme, alors toi aie peur de lui. Parce que si de lui n'a pas peur, n'a pas pitié pour son âme, toi aie peur de lui. Parce que de lui-même, il n'a pas pitié. Un jour, il n'aura pas pitié de toi. Elle parle plus fort, Jean. Et probablement, hein? Non, rien à voir, c'est notre problème. Écoutez, ce que j'ai dit, c'est que l'option sadducéenne est de nature philosophique. Expliquez votre question, je n'ai pas compris. Dans cette position, c'est un peu de la Je veux dire, je n'ai pas fait d'opposition entre la foi et la raison. Vous entendez des voix. Mais il n'y a que sans juif que l'option parisienne. Et j'ai pas vraiment compris, je m'excuse, mais voilà comment j'interprétais un peu ma réaction à ce que j'ai entendu de lui. C'est que il y a une différence entre la pensée des juifs et la pensée juive. L'option pharisienne, c'est de se rattacher à la pensée juive, pas à la pensée des juifs. La pensée des juifs, eh bien, elle peut être ce qu'elle est. Un juif pense ce qu'il pense de la Bible. Ça peut être très intéressant, c'est un phénomène de culture, c'est pas la tradition. Est-ce que c'est clair? La science juive, les mots ayant le sens simple, c'est la tradition talmudique. D'autre part, il y a un phénomène de culture, de l'opinion que les individus ont sur cette tradition. Ça, c'est de la culture des juifs. C'est très important, très intéressant, très enrichissant, mais ce n'est pas la tradition juive. Est-ce que c'est suffisamment clair? Oui. J'ai pas dit que le sadducéen était hypocrite.
Non, ça n'a pas étonné, mais une fois déjà, je préfère parfois le dialogue et l'ouverture que celui qui pratique le droit et qui prend une barrière totale avec celui qui n'a pas sa même pratique de la même foi, c'est-à-dire pas sa réputation totale.
Écoutez, vous avez dit beaucoup de choses à la fois, et en particulier, chaque nuance de vocabulaire ouvre un tout autre registre. Dialogue et ouverture sur quoi, à propos de quoi? On peut avoir dialogue et ouverture avec n'importe qui, à propos de quoi? Mais, une minute, j'ai pas entendu, une minute. Je pense que votre sujet va faire partie de la table ronde de dimanche. Mais là, j'aurais à dire, et je le dis déjà ce soir, que ça me paraît absolument inutile, parce que ça nous mènerait à des polémiques inutiles, de identifier les groupes, d'identifier les partis, d'identifier les... Tout simplement parce que vu de l'extérieur, on ne sait pas de quoi on parle. Mais il est beaucoup plus positif de parler de tendance, sans avoir à identifier les personnes. Voilà ce que je veux dire. Et il n'y a pas de doute que ce phénomène de foisonnement, de tendances différentes autour de ces trois catégories, est très accusé dans la société israélienne, comme il est très accusé dans la société juive militante, disons, en Angola. Mais vous auriez des surprises si nous avions à identifier. Et très souvent, des gens, je ne sais pas à quoi vous pensez, je ne veux pas le savoir, mais des gens à qui vous penseriez. Non, je ne veux pas qu'on identifie. Non, on va rentrer dans la polémique, c'est dommage. Et je veux dire que des gens à qui vous pensez, et ne pensons pas à Mère Chérie, c'est des catégories que nous analysons. Des gens à qui vous pensez comme étant des gens qui pratiquent et qui croient, peut-être vous vous trompez, peut-être qu'ils ne croient pas. Et d'autres à qui vous pensez comme s'ils ne croyaient pas, peut-être vous vous trompez, peut-être que c'est eux qui croient. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il faut être extrêmement prudent dans ces identifications. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces tendances travaillent notre société contemporaine. Et elles les travaillent intensément. Bien.
Oui. Continuera à partir de demain matin cette projet du matin sur la Gada de Pessah. Et donc demain, nous aurons la conférence de M. Georges Ancel sur le Parisien, la révélation et la majorité.
Écoutez, je vais vous demander une minute d'attention et je voudrais tout simplement vous remercier pour votre attention parce que je comprends moi-même que c'est un sujet extrêmement complexe et qu'il faut un grand effort d'attention pour le suivre. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on dit... Baruch Shalom Hashem Goy, parce que Goya, j'aurais pu m'en sortir, mais Goya. Bon, oui. Pour empêcher ce processus. Chaque fois que Amalek diagnostique où est la matrice, où va naître, alors il se jette dessus pour l'annuler. Vous comprenez ce que je veux dire, très rapidement. Et la consigne pour Amalek, c'est Timhe, Zecher, Amalek, Mitaha, Tashamaim, Lotishka. Amalek, c'est l'apparition de pas n'importe quel persécuteur, ennemi, rival. C'est de celui dont le propos est d'annuler la tentative d'engendrement qui se fait en Israël. En Israël, depuis toujours. Okay. Et c'est pourquoi il y a une seule consigne pour Israël, c'est d'annuler cela. Et Israël n'a pas toujours le courage de le faire, alors il en supporte les conséquences. C'est arrivé au temps de Shaoul. Shaoul n'a pas eu le courage. Alors on a eu Aman. Et puis, etc. Là-bas, on a eu le courage. Oui, c'est le chesed d'Abraham exagéré qui empêche. Non, non, c'est agir avec un chesed de Hélène, avec un vrai chesed, pas un chesed infantile et responsable, auto-suicidaire. Et alors, attendez, je vous cite un enseignement du Rashi à ce sujet, qui se rattache à la sortie d'Égypte, que peut-être vous avez déjà. Quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure du problème. Vous savez qu'on ne dit pas le Hallel, à part le premier jour, les deux premiers jours de fête et de fêta, en Gola, ou le premier jour en Israël, je crois que c'est monsieur qui m'a posé la question d'ailleurs. Eh bien, on ne dit pas le Hallel complet. Pourquoi ? Le Midrash dit qu'au moment du passage de la mer Rouge, les anges ont voulu chanter. Et alors Dieu les a empêchés en disant comment mes créatures, les Égyptiens, ça c'est un Midrash lui, mes créatures, vous ne trouvez pas ça dans les Midrashim des Égyptiens, mes créatures périssent et vous voulez chanter, c'est lui. Alors l'objection qui a été faite à ce Midrash, c'est comment ? Les anges, ils ont fait comme des enfants. Aviashir Moshe ou Bnei Israël. Les enfants d'Israël ont chanté et Dieu les a fait chanter. Bien. Et alors, pourquoi tu as permis aux Hébreux de chanter après le massacre des Égyptiens dans la mer Rouge et tu ne permets pas aux anges? Alors le Rav Kook a donné un enseignement extrêmement profond et qu'il a élargi à Amalek en disant ceci. En haut, dans la racine de toute présence au monde, tout est saint, tout est pur. C'est quand ça arrive en bas qu'il y a des choses qui se pourrissent. Alors en bas, pieds face, touche pas en haut. Les hommes ont le droit de se réjouir qu'en bas, ça a été effacé. Les anges n'ont pas le droit. Parce qu'en haut, c'est cadeau. C'est mes créatures. Vous comprenez jusqu'où ça va, okay? Ce monothéisme juif. On ne trouve pas ça ailleurs. Okay? Et alors le Rav Kook a dit, et je dois vous dire très honnêtement, on a malheureusement pas le temps, tout le monde a beaucoup à faire. Très souvent, on laisse des étudiants en suspens. Et il a dit, ça veut dire Youn. Il faut réfléchir encore pour trouver un... Mais je vous donne, en tout cas, comme hypothèse d'étude. Il a dit, et c'est ça que dit le verset pour Amalek. Tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel, touche pas en haut. Parce que même en haut, même Amalek en haut, tu sais pas de quoi il s'agit. C'est moi qui l'écris. Oui, oui, tout ça va, c'est inouï, verset du verset. Hein. Mais en tout cas, en bas, il faut effacer. Okay. Sinon, on ne comprendrait pas le verset. Timhe et Zeche Amalek, Mitahat Hashamayi, touche pas si en haut. Oui, il y a là une noblesse de la tradition juive. Bon, c'est la révélation, qui est énorme. Seulement, ça ne doit pas nous donner la libye de ce que Michel a encore désigné, que nous avons commencé à étudier, cette espèce de charité irresponsable et autosuicidaire lorsqu'elle n'est pas corrigée par la vérité. Alors, malheureusement, j'en profite pour vous dire, c'est le sujet... malheureusement, une grande majorité du peuple juif est tombée dans ce piège. Hein? C'est-à-dire que la manière dont nous nous situons par rapport à l'adversaire, c'est cette manière aberrante. Nous sommes les hommes de la noblesse et de la charité. Alors vite, préparez-nous les potences. Préparez-nous les crochets de boucherie. Préparez-nous les autosuicidaires. Hein? Vous voyez le problème? Quelle est la racine? La racine est très positive, sacrée, sainte. C'est notre charité d'Abraham. Oui, mais faites attention. C'est pas Abraham qui est Israël. Il faut qu'il soit corrigé par Isaac pour arriver à Jacob. Là est la vérité. Chesed, c'est Abraham. Mais Jacob, c'est aimé. Alors c'est comme Jacob qu'il faut faire, au nom d'Abraham. Mais pas comme Abraham. encore une fois, à ce niveau-là. Okay. Je vous dis ça à cause des problèmes contemporains, c'est pas la peine de mettre les points sur les i. Il n'y a pas plus Hassid Choté que les i. Vous savez que c'est Hassid Choté, un Hassid fou. Il n'est pas Hassid, il est fou. Fou, ça veut dire quoi? Il est responsable. Alors on a le droit d'être Hassid Choté quand ça concerne que soi-même. Quand on met en jeu la sécurité d'autrui, et alors là, ça va mal. On n'a pas le droit d'être Hassid à Londres quand le danger est à Nathania. Pourquoi on ne parlait que de Nathania, ça fait 15 km de la frontière. Et vous voyez ce que je veux dire? Et en parlant du Jacobovic, là. Stop. Il peut y avoir un doute, bien sûr. Mais en tout cas, dès qu'on entend « Je suis celui qui veut t'annuler », pas te à servir, ça on a supporté 6000 ans, mais « Je suis celui qui ne veut pas de toi », alors c'est la fin éclate. Alors, on a donné dans la Kabbalah l'indication suivante. Amalek, il se cherche entre Balak et Bilham. Balak et Bilham, vous prenez les lettres et vous voyez Amalek apparaître. Balak et Bilham. Am et Lek. Et puis, en particulier la typologie de Bilham. Le Midrash dit, Sherassa libloa et Aram. Il a voulu avaler le peuple. Il veut détruire le peuple d'Israël. Il ne veut pas l'amoindrir. Il ne veut pas le mettre en ghetto. Il ne veut pas le mettre en camp de concentration, si vous voulez, habituel. Ils veulent le détruire. Israël ne connaît pas, veut pas. Effacez-moi ça de la carte. Okay? Alors c'est là qu'Amalek est apparu. Et en particulier, Amalek apparaît toujours dans une collusion entre l'islam et la chrétienté. Et là, on lit, hein? C'est là que les Athéniens se font lire. Oui. Regardez la coquetterie de la logique de l'histoire. C'est quand même la France qui est la fille aînée de l'Église. Okay? Vous voyez le destin de Giscard. Je vais vous montrer comment le Périssalique, vous avez entendu parler du Périssalique, la grandeur du grave Sadok HaKohen Menublin, qui a enseigné cela de la manière suivante. Attendez que je me rappelle le détail. Voilà, nous savons dans la typologie que le chaud renvoie à Esav et le Hamour renvoie à Ishmael. Bien. Et Jacob, c'est le Chor Tam, le bœuf paisible, le Chor Chor Hadar Lo, Yosef, okay. Et puis le Chor Mouad, le bœuf vicieux, Mouad, Nagah, okay, le bœuf, le taureau, ça c'est ça. Et Hamor, c'est Shelou Lachem, Poim Hamor, pour ne pas entrer dans les détails de la typologie. Et vous connaissez l'expression évangélique, entre le bœuf et l'âne. Entre le bœuf et l'âne, né qui? Amalek. Nous allons voir avec le Périssalique. Elle nous dit le miloui du chor et le miloui du hamor. Qu'est-ce que c'est le miloui? C'est ce qui est impliqué, ce qui est implicit, ce qui est dedans, ce qui remplit le dedans. Le miloui de chor, c'est rare. Ça fait 6. Okay? Le miloui de hamor, c'est 46. Même là. 46 et 6, ça fait 52, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Or, la typologie de Amalek, c'est quel est? Vous connaissez ces midrashim, n'est-ce pas? Quand un père a pris son fils sur ses épaules, et puis il marchait dans le chemin, et quelqu'un est passé et a demandé au fils, sur qui tu es? Tu ne connais pas. Alors le père, il a dit, tu ne connais pas, il l'a jeté par terre. Un chien est arrivé à mordre. Alors le père a sauvé le fils. Voilà l'histoire de la sortie d'Égypte. Quand Israël sortant d'Égypte s'est demandé est-ce que j'ai un père, connaît pas, Amalek est arrivé. Et il l'a mordu comme un chien. Alors quand le père a vu que le fils était mordu par le chien, il s'est quand même occupé du fils. Okay? Et il a dit, recommence pas, ne dis pas qu'il n'y a pas de père. Mais à peu près, alors bon, de là on apprend autre chose que quel est le père Amalek. Vous avez déjà compté quel est. Ça fait 52. Alors ça veut dire que ce chien-là, si vous dites, il sort du Miloui, du Chor et du Hamor. Et effectivement, la collusion entre la chrétienté et l'islam contre Israël, c'est cet extraordinaire danger qui s'appelle Hamas. Et alors, la faiblesse d'Israël, à travers le temps de l'histoire, c'est d'être faible contre Hamas. On n'ose pas. Qu'est-ce que va dire l'UNESCO? Vous n'en êtes pas compte? On n'ose pas. Mais alors, on le paye, c'est la conséquence. Bon.
La vie, c'est pas une collusion.
Si, 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 vous connaissez pas l'histoire.
Vous avez entendu parler de, du grand musée de Jérusalem? Vous savez que Sadat soi-même était un nazi authentique. Bon, je ne vais pas vous parler de, du problème d'affaires avec l'Égypte, mais enfin, rendez-vous quand on aura rendu le Sinaï, si on le rend. On verra bien à ce moment-là ce qui se passera. Mais quand Sadat est arrivé à Jérusalem, la première fois avec Begin, vous savez, qu'est-ce qu'il y avait sur sa cravate? Les croix d'année. Je ne sais pas si vous... Alors, coïncidence. Vous savez qu'est-ce que c'est un protocole diplomatique dans une rencontre de ce genre? Et qu'on prépare la rencontre entre, pour la première fois, le chef de l'Égypte et le chef d'Israël, et on s'amène avec une cravate avec des croix d'année. Comment? Je ne sais pas, ce n'est pas fabuleux, mais nous, ça nous a rassurés. Vous voyez, il a porté sa carte d'identité. Je veux dire, mais vous savez que ces gens-là sont très francs. Seulement, on ne les entend pas lorsqu'ils disent ce qu'ils veulent faire. On ne veut pas les entendre. Vous savez qu'Hitler avait écrit tout son programme dans Mein Kampf. Personne n'a voulu admettre que c'est ça qu'il dit.
Et c'est non, mais il y en a beaucoup qui racontent des
bêtises. Comment?
Il y en a beaucoup qui racontent n'importe quoi.
Mais écoutez, quand quelqu'un vient vous dire « J'en ai le moyen et je vais te tuer », vous appelez ça une bêtise?
Non.
Ben, évidemment. Bon, c'est tout.
Oui. À propos de ce que vous avez répondu, monsieur, pour le Machia, c'est la réussite des relations entre les hommes, c'est-à-dire la paix. Mais l'expérience, bon alors, en fait, toute l'histoire, c'est l'histoire de relations entre les hommes.
Qu'est-ce qui résout ce problème?
D'accord.
C'est vrai.
Alors, à ce niveau-là, l'expérience de la solitude, elle n'a aucun... Enfin, pourquoi l'expérience? Parce que vous aviez fait un séminaire, vous aviez parlé de... Enfin, c'était sur l'expérience existentielle, et vous aviez pris le problème de la solitude en prenant...
Et je vous avais cité à cette époque que l'expérience de la solitude est permise dans le judaïsme que si c'est pour reprendre des forces pour revenir dans la société. Chez vous, Achem, pour Imahamor, c'est la fin du verset qui est importante. Et je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que la vraie chassidoute. La vraie chassidoute, c'est pas l'option essénienne, l'option de sortie de l'histoire et de la communauté. C'est reprendre des forces pour revenir dans la communauté. Sinon, c'est pas de la vraie chassidoute. C'est ce cas particulier que l'on permet à ceux qui ne supportent pas la vie. Tu veux vivre quand même ermite dans le désert. Bon, on te permet. C'est une thérapeutique, sache que tu es malade, mais ne te donne pas un modèle. Vous comprenez? Parce que finalement, il y a beaucoup de pseudo-chassidus. Et je vous ai dit une fois une blague comme ça en français, il y a des gens qui doutent. Alors quand ils n'arrivent pas à sortir du doute, ils sont dans la moitié d'un doute. Chassidus. La moitié du doute. Et il faut faire attention qu'il y a une vraie chassidoute, mais pas ces contrefaçons de la chassidoute qui sont une espèce d'appel à l'hérémétisme, comment on appelle ça, le fait d'être ermite. Bon, on joue à ça, d'ailleurs on joue à ça en Cadillac, alors il ne faut pas exagérer.